Bonjour chers fidèles auditeurs de La Voix de l'Amérique, vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. Je suis Nanite Talani. Le suivi et la prise en charge du patient à distance par un professionnel de santé appelé télésurveillance et téléconsultation deviennent de plus en plus possibles grâce à la technologie. Concrètement, comment un médecin peut-il assister le patient? Comment le patient peut-il veiller à son propre suivi sanitaire? Comment les applications peuvent-elles améliorer la santé des populations en Afrique?
Apollo permet à tout individu d'avoir déjà son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura toutes vos informations en face de lui-même.
Sekou Cheikh Bomba, notre invité, répondra à ces questions. Il est le PDG de CBS Systems, compagnie basée en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur de l'application Santé Apollo. Après cette discussion, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Dans cette édition de Votre santé, votre avenir, nous allons nous entretenir avec Sekou Cheikh Bomba sur son application Apollo, un outil important pour la télésurveillance et la téléconsultation des patients.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Bonjour Cheikh.
Bonjour Nanit.
Vous êtes le président fondateur de CBS Systems et c'est par le biais de cette société que vous avez créé votre première application appelée Apollo qui est destinée à améliorer la santé en Afrique. Comment vous est venue l'idée de créer cette application Apollo?
J'espère que je ne serai pas trop émotionnel ici. Je dirais que l'idée m'est venue à la suite de la perte de mon meilleur ami nommé Ismaël Grandbouté.
Que son âme
repose en paix. Nous avons fait le Maroc ensemble. Il était rempli d'énergie, en plus d'être une personne vraiment sociable. Mais hélas, il a succombé à une crise cardiaque à 33 ans.
Il est mort au Maroc?
Et il est mort en Côte d'Ivoire. Après les études, il est retourné au pays. Il a créé une entreprise. Et il a perdu la vie à 33 ans d'une crise cardiaque. Pourtant, il était plein d'énergie. Il était vraiment abattu.
Une fin vraiment tragique.
Sachant que notre ambition était d'améliorer l'Afrique depuis notre cursus universitaire ensemble. Donc, c'était comme si j'avais perdu un compagnon
de lutte.
J'étais vraiment touché. J'ai décidé d'éviter à tout Africain d'expérimenter la perte brusque d'un être cher.
Et vous avez pensé à une application santé?
Étant donné que j'étais un programme manager en data science, j'ai fait une analyse sourde personnelle face au problème. J'ai approché le domaine de la santé de façon systémique. C'est ainsi qu'avec Idrissa Koulibaly, ici à Washington DC, durant nos séances de sport matinal, l'idée de créer Apollo a vu le jour. En créant Apollo, nous avons pensé plus grand que nous. Le monde continuerait après nous, alors il serait aimable de lui donner un outil qui puisse faciliter le futur pour les générations à venir et tout. Donc je suis certain qu'avec Apollo, mon meilleur ami n'aurait pas perdu la vie à travers une crise cardiaque.
Comment est-ce que l'application Apollo aurait pu lui éviter une fin si tragique, pas seulement à lui mais à d'autres personnes aussi?
Nous avons la traçabilité et le suivi médical à travers l'application Apollo.
Comment ça se passe?
C'est-à-dire, lorsqu'on vous permet de faire un bilan annuel de santé, on a toutes les informations, sachant de quoi vous souffrez et tout. On peut déjà vous donner des rappels. On peut vous prescrire un régime ou une activité physique à faire pour vous améliorer. Parce que les crises cardiaques, les AVC peuvent en fait vraiment, avec une hygiène de vie un peu plus stable, s'éviter. Apollo, avec cette traçabilité, pourrait régler tout cela. Nous appliquons le machine learning en fait.
Concrètement, comment se passe l'utilisation de l'application Apollo pour améliorer la santé des individus?
Je dirais d'abord, Apollo améliorera le système sanitaire de tout pays africain qui l'adoptera de 37% en 18 mois. Apollo est une application qui met en relation l'écosystème de la santé. Elle connaît aussi bien le médecin, le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc, Apollo permet de créer une base de données fiable, à jour, des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des sèvres en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux, nous ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpratique, comme on le dit en fait en français, ça on permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 franc. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Mom and Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque des grossesses et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards, à l'aurait de 2050. C'est-à-dire qu'on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ses malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire qu'il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte, bien sûr, et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur. Pendant le quotidien de la grossesse, elle pourra contacter la sage-femme pour n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB System. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau le moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est en cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au-devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais de solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Je tiens tout à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CEMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense qu'en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moindre coût. Voilà un peu ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, c'est dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part d'Amazon, 100 000 $ par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée aux problèmes africains.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais si possible.
Like, oui.
I have all my heart, yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le changement climatique, la pollution et notre santé. Du charbon de bois au biocharbon, nous verrons comment un village au Sénégal s'attelle à sauver la forêt et l'environnement. Et selon une activiste, améliorer le changement climatique, c'est l'affaire de tous. Ensuite, l'âge ne pose aucun obstacle pour un chirurgien de 93 ans qui opère toujours. Enfin, les scientifiques ont identifié des variantes génétiques qui pourraient aider les malades graves de COVID-19 à survivre à la maladie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Bien que la pandémie de COVID-19 ait dominé 2020, le changement climatique ne s'est pas arrêté. Les impacts du changement climatique comprennent le réchauffement des températures, l'élévation du niveau de la mer et la pollution de l'air. Ces changements menacent notre santé en affectant la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, entre autres. Selon l'OMS, la pollution de l'air est, à elle seule, responsable d'environ 4 200 000 décès par an dus aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies cardiaques, aux cancers du poumon et aux maladies respiratoires chroniques. Nous commençons au Sénégal, où la combustion du bois et du charbon de bois représente 50% de la consommation énergétique des ménages, contribuant à la pollution de l'air et à la déforestation. Pour réduire les dommages écologiques, une association appelée Nébédé engage des villageois pour produire du biochar. Reportage à Dakar d'Estelle Ndjandjo, le récit de Dilidiko.
La moitié des ménages sénégalais dépendent du bois et du charbon de bois. Pour lutter contre la pollution de l'air et la déforestation, une coopérative de femmes produit du charbon écologique, une source d'énergie faite avec de la paille. Elle brûle et mélange la paille carbonisée avec de l'argile et de l'eau. Le résultat final est un charbon de bois organique neutre en carbone qui ne nécessite pas la coupe d'arbres. Le mélange, pressé et stocké, permet de produire environ 150 palettes de charbon bio par jour. Ainsi, l'initiative diversifie l'économie dans cette région rurale où beaucoup de personnes vivent de l'élevage et de la pêche.
Tout d'abord, ce charbon bio protège la forêt, il protège nos maisons, il protège nos ressources, il protège les femmes, il protège la forêt qui ne brûle plus et il protège nos vies. C'est sain et pour cela, nous remercions Dieu.
Cette production de charbon bio a été lancée dans 18 villages de la région par l'association écologique Nébédaï. Pour lutter contre la déforestation, le groupe plante également des arbres dans les grandes villes et les villages. Depuis le début de l'année, ils ont planté plus d'1 million d'arbres dans le pays. Le directeur de Nébédaï, Jean Gop, affirme que faire bon usage de la paille présente un avantage supplémentaire.
La paille, qui est la matière première de notre biocharbon, en fait, elle véhicule en saison sèche des milliers de feux de brousse à travers le pays. Donc réduire cette paille, c'est réduire les feux de brousse et donc empêcher que les jeunes arbres meurent dans les forêts. Donc en consommant 1 kg de charbon de paille, on sauve 2 fois la forêt.
Les bénéfices sont déjà visibles dans la forêt de Djilor, une zone patrouillée par le garde forestier Biram Ning. Même s'il n'a pas l'autorité d'arrêter les personnes qu'il voit couper des arbres, il signale les infractions à un chef de village local. Le garde forestier ajoute que la montée des eaux du delta a salé les terres, posant ainsi un défi supplémentaire.
La déforestation est provoquée par les coupes abusives des arbres, les coupes clandestines provoquées par la population. Il y a les feux de brousse qui peut ravager toute une forêt, toutes des kilomètres de forêt. Trois, il y a l'avancée de la selle venue de la mer vers les forêts.
La Grande Muraille Verte est l'initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre la désertification du Sahel et du Sahara. Mais pour fonctionner, ce projet immense a besoin d'une multitude de petites initiatives, comme celle du charbon bio de Nébédaï.
Le changement climatique est causé par des facteurs naturels, ainsi que par des activités humaines qui ont augmenté les émissions de dioxyde de carbone. Je me suis entretenue avec Sayo Ayodele, coordinatrice de Count Us In. Un mouvement mondial qui vise à mobiliser les citoyens du monde entier et les dirigeants pour agir sur le changement climatique. Elle nous en dit plus.
Je pense que nous savons que le changement climatique est réel, qu'il est urgent et que cela se passe en ce moment. La science nous le dit depuis de nombreuses décennies, mais ce qui se passe maintenant, c'est que nous pouvons vraiment le voir de nos propres yeux. Des incendies de forêt de la Californie à l'Australie l'année dernière, en passant par les inondations extrêmes ici au Royaume-Uni où je vis, en Afrique, des données météorologiques extrêmes. Je veux dire que cela a des effets dévastateurs sur tout le continent. Donc l'une des choses qu'il vaut vraiment la peine de retenir est que l'Afrique contribue moins au changement climatique en termes d'émissions, mais subit certains des pires impacts. Ainsi, dans de nombreuses régions du continent, vous assistez à des sécheresses extrêmes dues à la météo, de fortes pluies, ce qui rend la planification très difficile pour les gens, les empêche d'obtenir leur récolte au bon moment, ce qui signifie bien sûr que les gens s'en vont affamés. Et bien sûr, cela conduit à toutes sortes d'impacts, y compris malheureusement la migration, des pertes de vie à travers le continent. C'est donc une question très urgente pour l'Afrique et ce, depuis un certain temps. Nous avons vraiment travaillé avec des experts pour développer des pratiques très efficaces que chacun de nous peut appliquer dans sa propre vie. C'est donc autour de la marche et du vélo, l'utilisation de l'énergie solaire, la réparation et à la réutilisation de vos vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. Comme vous l'avez dit, en utilisant vraiment votre voix, en parlant à vos politiciens et en parlant au travail. Il y en a donc pour tous les goûts. Nous sommes donc au milieu de la pandémie de COVID-19 et cela fait des ravages. Et nous le reconnaissons vraiment. Mais s'il y a des leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie, c'est d'écouter la science. Vous devez écouter les experts et nous devons prendre des mesures précoces. Donc, ne pas planifier, c'est planifier un échec. Et les scientifiques nous disent que le changement climatique reste urgent et que nous devons agir rapidement. C'est donc la première raison. Mais la seconde, je dirais, est que, encore une fois, les experts nous disent que la meilleure façon de reconstruire nos sociétés et nos économies hors de cette pandémie est en fait une reprise verte. C'est ce qui va garantir des emplois durables pour l'avenir et c'est ce qui va nous rendre plus résistants à toute future pandémie.
Un médecin âgé de 93 ans, originaire du Kyrgyzstan, effectue toujours des opérations et détient le record du monde Guinness de la plus longue carrière de chirurgien. Mambé Mamakiv a reçu le titre record de la plus longue carrière de chirurgien cette année et n'a cessé de travailler dans les blocs opératoires de la capitale du pays, Bishkek. Le chirurgien a commencé à se spécialiser en chirurgie médicale en 1953 et a traité plus de 100 000 patients depuis lors. Il dit qu'il a opéré des patients tous les jours sans interruption. Le chirurgien reste un modèle pour ses collègues du Centre national de chirurgie. Il se maintient en forme en faisant régulièrement de l'exercice physique, mais admet qu'il n'a pas de secret pour rester actif et en bonne santé. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici l'année prochaine, on se lave la main fréquemment et on utilise un masque en public. Meilleurs vœux pour l'année 2021. Portez-vous bien et à très bientôt.
Arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Fekou Cheikh Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre